Vous écoutez, on lit pour vous.
Tourner le dos au projet d'énergie fossile a-t-il rendu le Québec plus vert? Un texte d'Alexandre Shields paru le 6 janvier 2025 dans Le Devoir. Déjà 25 ans depuis l'an 2000, Le Devoir replonge dans un quart de siècle jalonné par des événements marquants et de nouvelles tendances qui façonnent encore notre société. Dans cet article, est-ce que le fait de rejeter les projets d'énergie fossile a rendu la consommation énergétique du Québec plus verte? Exploitation du gaz de schiste, recherche de pétrole sur l'île d'Anticosti ou sous les eaux du Saint-Laurent, construction du pipeline Énergie Est et de l'usine de GNL Québec, les gouvernements du Québec sont tous passés très près d'autoriser des projets majeurs de développement de l'industrie des énergies fossiles au cours des dernières années, avant de finalement leur tourner le dos. Mais ces refus ont-ils rendu la consommation énergétique du Québec plus verte? Lorsque le président de l'Association pétrolière et gazière du Québec, André Caillé, se présente au bureau du Devoir au printemps 2010, il déroule une carte sur laquelle on constate que tout le sud du Québec est recouvert de permis d'exploration pétrolière et gazière. De l'île de Montréal à la pointe de la Gaspésie, en passant par le fleuve Saint-Laurent, des centaines de permis acquis à 10 cents l'hectare tapissent le territoire sans tenir compte des usages de celui-ci. Même l'île d'Orléans, l'île aux Coudres et l'île Verte sont recouvertes de permis. Le grand public ignore alors totalement ce que sont le gaz et le pétrole de schiste. Aucun débat public n'a eu lieu sur l'exploitation éventuelle de ces ressources et il n'existe aucune évaluation des impacts environnementaux. L'industrie a pourtant déjà convaincu le gouvernement libéral de Jean Charest d'aller de l'avant. « On va vous permettre de déployer vos ailes », leur avait d'ailleurs promis, dès 2009, la ministre des Ressources naturelles Nathalie Normandeau. L'objectif des entreprises, si le potentiel commercial avait été confirmé, était de forer pas moins de 20 000 puits dans la vallée du Saint-Laurent. Même si les libéraux affirment alors qu'il y a là pour le Québec un rendez-vous qu'il ne peut pas manquer, les choses ne se sont pas passées comme l'industrie le souhaitait. Le débat s'est plutôt rapidement enflammé, se souvient le metteur en scène Dominique Champagne, qui s'est impliqué dans la mobilisation contre l'industrie. Quand je me suis présenté à une rencontre qui devait servir à parler d'acceptabilité sociale, j'ai vu la mise en scène. Je ne connaissais pas très bien le dossier énergétique, mais je reconnaissais la mise en scène, avec le café, les petits gâteaux, les micros et les représentants de l'industrie qui vantaient ce qu'ils présentaient comme les merveilles de l'exploitation gazière. J'étais furieux parce qu'ils insultaient notre intelligence, souligne-t-il. Il n'était d'ailleurs pas seul à se braquer ainsi contre le développement de cette filière, et on connaît la suite. La saga du gaz de schiste a provoqué une levée de boucliers qui a forcé les gouvernements suivants à fermer la porte temporairement, puis définitivement, tout en prévoyant des indemnisations financières pour les entreprises qui détenaient toujours 182 permis, 32 000 km² en 2021, malgré l'interdiction de la fracturation. Lobby des entreprises. Au final, à peine 18 puits ont été forés et fracturés. Plusieurs laissent toujours fuir du méthane, un très puissant gaz à effet de serre, comme l'a démontré Le Devoir en 2024. Et le gouvernement du Québec est aujourd'hui ciblé par plusieurs poursuites d'entreprises qui réclament des milliards de dollars en indemnisation, jugeant avoir été expropriés. La très vive controverse du gaz de schiste n'a pas empêché le gouvernement péquiste de Pauline Marois de signer en 2014 un contrat pour l'exploration pétrolière sur l'île d'Anticosti en partenariat avec des entreprises privées. Québec prévoyait alors dépenser 115 millions de dollars pour tenter de déterminer s'il existait un potentiel commercial de pétrole de schiste. Il y avait un lobby très fort en faveur des énergies fossiles, souligne aujourd'hui Martine Ouellette, qui était ministre des Ressources naturelles dans ce gouvernement péquiste. Pour moi, c'était très clair. Que ce soit le gaz de schiste ou le pétrole de schiste, il n'y avait rien d'économique ou d'environnemental, ajoute-t-elle. Tous ces projets étaient poussés par des lobbies et les gouvernements étaient trop au service des lobbies. Mais, heureusement, les citoyens se sont tenus debout et on a vu de belles victoires citoyennes. C'est finalement le gouvernement libéral de Philippe Couillard qui a mis un terme au projet en 2017. Ce dernier n'a pas permis de découvrir de potentiel pétrolier, mais il a coûté 92 millions de dollars à l'État québécois, principalement pour indemniser les entreprises pour la fin de cette saga. La plus grande île du Québec a depuis été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de son patrimoine fossilifère unique au monde. Pipeline et GNL. À défaut d'exploiter d'éventuelles ressources gazières ou pétrolières dont le potentiel commercial n'a jamais été démontré de façon indépendante, le Québec aurait pu devenir une véritable plaque tournante de l'exportation des énergies fossiles de l'Ouest canadien. Vous écoutez, tourner le dos au projet d'énergie fossile a-t-il rendu le Québec plus vert? Un texte d'Alexandre Shields paru le 6 janvier 2025 dans Le Devoir. Au début août 2013, peu après la tragédie de Lac-Mégantic, la multinationale TransCanada, devenue depuis TC Energy, annonce son intention de construire le pipeline Énergie Est qui doit transporter chaque jour 1,1 million de barils de pétrole des sables bitumineux en traversant le territoire québécois sur près de 700 kilomètres, sans compter des centaines de cours d'eau et plusieurs municipalités, pétrole qui serait ensuite exporté à partir d'un port qui serait construit à Cacouna, un secteur qualifié de pouponnière des Bélugas du Saint-Laurent. Les libéraux de Philippe Couillard se montreront favorables au méga-projet, mais celui-ci sera marqué par plusieurs controverses. Levée sismique dans l'habitat du Béluga, refus répété de TransCanada de produire une étude d'impact québécoise, rencontre secrète de commissaires fédéraux avec des représentants de l'entreprise, dont Jean Charest, etc. Face à une vive opposition d'élus municipaux, de groupes écologistes et de citoyens, le projet de pipeline sera finalement abandonné en 2017, TransCanada évoquant une décision d'affaires. Entre-temps, un autre projet d'exportation d'énergie fossile passant par le Québec émerge dès 2015. Énergie Saguenay, GNL Québec. L'objectif des promoteurs américains est de construire un gazoduc en sol québécois, mais aussi une usine de liquéfaction de gaz naturel de l'Ouest canadien, exploitée principalement par fracturation, et un terminal maritime au Saguenay. Plusieurs ministres caquistes se porteront à la défense de ce projet, le premier ministre François Legault allant même jusqu'à affirmer que l'exportation de 11 millions de tonnes de GNL par année pourrait aider la planète à lutter contre la crise climatique. Mais au terme d'un débat polarisant dans la région et ailleurs au Québec, le rapport du Bureau d'audience publique sur l'environnement conclura plutôt que le projet provoquerait une hausse des émissions de gaz à effet de serre et qu'il risquerait de ralentir la transition énergétique. Cette usine gazière représentait aussi des risques en matière d'acceptabilité sociale et de protection de la biodiversité. Résultat. Le gouvernement Legault ferme la porte à l'été 2021, suivi par le fédéral. Les promoteurs se sont depuis tournés vers une demande d'arbitrage international et ils réclament au moins 1 milliard de dollars en indemnisation financière. L'audience est prévue pour décembre 2025. Un Québec vert? L'arrêt imposé à la filière du gaz de schiste, la fin de la saga pétrolière sur Anticosti et le rejet de GNL Québec ont souvent été évoqués par les élus comme des exemples de décisions qui ont contribué à définir le Québec comme une société tournée vers la transition et déterminée à lutter contre les crises environnementales. Le Québec est-il plus vert pour autant? Non, répond en substance le titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal, Pierre-Olivier Pinault. Nous avons dit non à des projets de production d'énergie fossile, mais le Québec n'a aucunement réduit sa consommation de combustibles fossiles ces dernières années, mis à part la période de la COVID-19. La province a même battu son record historique de vente d'essence pour le secteur routier en 2023, avec plus de 9 milliards de litres, explique-t-il. Pas moins de la moitié de l'énergie consommée au Québec provient toujours des énergies fossiles. Les transports, qui dépendent à plus de 97 % des produits pétroliers, sont révélateurs de cet appétit. Et depuis 1990, la consommation totale d'énergie du secteur a augmenté de 41 % dans un contexte où le parc de véhicules personnels a augmenté de 57 %, soit une hausse plus de deux fois celle de la croissance démographique de la province, précise la plus récente édition de l'État de l'énergie au Québec. L'électrification des transports va progressivement contribuer à réduire notre consommation de produits pétroliers, mais jusqu'à maintenant, les efforts d'électrification n'ont fait qu'ajouter des véhicules électriques dans le parc automobile, sans réduire le nombre de véhicules à essence ou diesel sur les routes, précise M. Pinault. Comme c'est l'usage des produits pétroliers et du gaz naturel, bien plus que leur production, qui est source de gaz à effet de serre, le fait de ne pas produire au Québec ne devrait pas du tout être une source de fierté environnementale. On n'a fait qu'exporter les émissions et les enjeux liés à la production. C'est à la limite un signe d'hypocrisie plus que de rigueur environnementale que d'interdire la production d'hydrocarbures tout en continuant à en consommer, ajoute Pierre-Olivier Pinault. Le Québec importe en effet tout le pétrole et le gaz qu'il consomme. Et selon les plus récentes données disponibles, on parle de plus de 360 000 barils de pétrole brûlés chaque jour, soit plus de 130 millions de barils par année, mais aussi près de 600 millions de pieds cubes de gaz par jour. Le pétrole est acheminé ici par navire, mais aussi par le pipeline 9B qui transporte du pétrole de l'Ouest canadien et du pétrole de schiste américain en traversant une partie du territoire et des cours d'eau. Le Québec consomme aussi plus que jamais du gaz de schiste, même s'il a interdit cette industrie sur son territoire en raison de ses impacts environnementaux et sociaux. C'était « Tourner le dos au projet d'énergie fossile a-t-il rendu le Québec plus vert ?» un texte d'Alexandre Shields paru le 6 janvier 2025 dans Le Devoir.
Des insectes face à la menace de l'hiver, un texte de Mathieu Perrault, paru le 5 janvier 2025 dans La Presse. La plupart des insectes sécrète une molécule antigel, mais une petite minorité migre vers le sud. Quand on examine la manière dont les insectes passent l'hiver, il faut distinguer les différents stades de leur existence, note Philippe Unterweger, un biologiste allemand ayant fondé un organisme de protection des insectes. Ils sont d'abord des œufs, ensuite des larves, et seulement après des insectes, sous la forme qu'on connaît, souligne M. Unterweger. En entrevue téléphonique, les scarabées, par exemple, peuvent passer jusqu'à 6 ans au stade de larve et ne vivent que quelques semaines ou quelques mois au stade d'insecte adulte. Le type d'antigel et de stratégie pour survivre est très différent dans les 3 stades de l'existence d'un insecte. Pour se protéger des menaces qui vont des pics insectivores aux champignons, les insectes se cachent habituellement dans le sol ou dans du bois endommagé. La vie d'un insecte est une menace perpétuelle, selon Philippe Unterweger, mais celle-ci n'est jamais si grande qu'en hiver, où ils sont pratiquement immobiles. Champs urbains. M. Unterweger a fondé un organisme qui s'assure de protéger les insectes en préservant les lieux qu'ils choisissent pour hiberner. La biomasse des insectes a diminué de 30 % depuis 30 ans en Europe centrale. En Allemagne, c'est 80 %. Quand il y a moins d'insectes, particulièrement de grands insectes, plus vulnérables, il y a moins d'oiseaux insectivores. Protéger les endroits où les insectes peuvent survivre à l'hiver est crucial pour contrer ce déclin. Les études publiées par M. Unterweger ont notamment montré que cesser de tondre les espaces verts urbains dans le mois ou les deux mois précédant la saison froide permet de conserver des herbes longues et des fleurs où des œufs et des larves peuvent s'abriter. Il suggère aussi d'éviter de couper une portion des champs de fourrage. En Allemagne, les champs de fourrage sont très diversifiés, avec beaucoup de fleurs. Ce sont des endroits privilégiés pour que les larves ou les œufs passent l'hiver. Quelle est la proportion des insectes qui passent l'hiver au stade d'adulte? On ne le sait pas. Pas plus qu'on ne sait dans quelle proportion ils migrent vers le sud, répond M. Unterweger. Il y a des dizaines de milliers d'espèces d'insectes dans chaque région du monde, mais souvent, on ne connaît que leur forme finale, sous forme d'un spécimen épinglé dans une cage en verre dans un musée d'histoire naturelle. On ignore pratiquement tout de la plupart des espèces d'insectes. Le même manque d'études ne permet pas d'établir si les insectes qui vivent dans des régions chaudes toute l'année ont des comportements ou des cycles de vie différents de ceux qui doivent survivre aux hivers froids. Dans certaines régions, au lieu de devoir survivre à la saison froide, les insectes doivent survivre à la saison sèche, note M. Unterweger. En savoir plus, 30 000 nombre d'espèces d'insectes au Canada. C'était « Les insectes face à la menace de l'hiver », un texte de Mathieu Perrault, paru le 5 janvier 2025 dans La Presse.
Je me vois faire la grosse ligue. Un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 17 janvier 2025 dans La Presse. Jérémy Goyer n'a que 14 ans, mais déjà, des tonnes de programmes de basketball de partout dans le monde se l'arrachent. Pour ses 7 pieds 3 pouces, oui, mais aussi et surtout pour ce qu'il peut accomplir sur un terrain. Jérémy Goyer joue au basketball depuis 8 ans au sein du programme Nobel de l'Association Basketball Laval, mais c'est en septembre 2024 qu'il est, en quelque sorte, sorti de l'ombre. Ses entraîneurs et mentors, Daniel Moulumba et Emmanuel Borneau, ont accepté, après une longue réflexion, de le faire participer à un camp regroupant les meilleurs espoirs nord-américains, les futurs talents du basket, Dixit Moulumba. Cela faisait plusieurs mois que les deux hommes recevaient des appels pour que Jérémy y prenne part. Le dit camp a lieu une fois par année aux États-Unis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Moulumba et Borneau, qui encadrent Jérémy depuis 3 ans, tentent de le protéger le plus possible. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont d'abord refusé notre demande d'entrevue en octobre 2024. L'attention médiatique après le camp était démesurée. Le camp, disait-on, se déroulait à Indianapolis en septembre 2024. Tous les plus gros médias en termes de sport et de basket sont à ce camp-là. Les organisateurs nous ont expliqué à quel point c'était gros. Je me disais, ouf, OK, relate Moulumba. Ça pourrait super bien aller, mais ça peut aussi mal aller. s'il ne performe pas et que ça ne va pas bien, il peut se faire détruire par les médias, ce n'est pas nécessairement positif. Heureusement, ça s'est bien passé pour lui, ajoute le coach. À quel point? Super bien. Un peu trop. La mère de Jérémy Goyer, Geneviève Brosseau, se souvient « Au premier match, je me disais, qu'est-ce qui se passe? C'est qui, lui? Je pense qu'il a fait 36 points dans le premier match. Il faisait juste dunker par-dessus tout le monde. Il avait du fun. » Madame Brosseau se souviendra toujours de ce week-end. Lors de la première journée, le vendredi, le compte Instagram de Jérémy est passé de 1 800 à 11 000 abonnés après que des vidéos de son fils eurent été publiées sur les réseaux sociaux. La maman n'a pas dormi de la nuit. Le lendemain, quand la famille s'est présentée sur place pour la deuxième journée du camp, Jérémy était à peine entré dans l'établissement que des dizaines de personnes lui demandaient des photos. On disait, si on avait demandé 5 $ par photo, on serait sorti avec au moins 100 000 $. Lâche Moulumba. Les débuts. Quelques mois ont passé depuis le camp à Indianapolis. La tension autour de Jérémy s'est graduellement relâchée. Le jeune homme, ses entraîneurs et sa mère ont donc accepté de rencontrer la presse mercredi entre les murs de l'école secondaire Georges Vanier de Laval. On a ainsi pu en apprendre un peu plus sur celui qui, déjà à 14 ans, fait saliver les plus grands programmes de basketball au monde. Jérémy s'est inscrit au basketball à 6 ans. À l'époque, ses parents exigeaient qu'il pratique au moins un sport ou une activité. Il a choisi le basket en raison de la proximité des entraînements avec la demeure familiale. Madame Brosseau se souvient d'ailleurs très bien de la première fois qu'elle s'est présentée à un entraînement avec son fils. « Quand je suis arrivé, je me suis présenté à Éric Denis, le président de l'association basketball Laval. J'ai dit, « Excuse-moi, j'ai inscrit mon fils dans le programme des 7 à 9 ans, mais il n'a pas encore 7 ans. » Je le voyais, il faisait juste regarder Jérémy. Il s'est levé et a dit « Bienvenue à Basketball Laval, Jérémy », raconte la maman en riant. Jérémy mesurait alors 4 pieds 10 pouces. Il était déjà plus grand que son enseignante de première année. S'il n'est pas immédiatement tombé en amour avec le basketball, il s'est vite rendu compte que c'était valorisant en tabarnouche pour lui, lâche sa mère. À l'été de ses 12 ans, Jérémy a franchi la barre des 7 pieds. Au fil des années, il a joué au sein du volet récréatif, puis du volet compétitif des Nobels. Actuellement en sport-études, il évolue au civil avec les Nobels et au scolaire avec l'équipe de l'école. Cette saison, du haut de ses 7 pieds 3 pouces, il fait partie de l'équipe de 4e secondaire plutôt que de 2e secondaire. Pas le choix, il est trop grand, ça ne le challenge pas. Lâche Emmanuel Bourneau. Vous écoutez « Je me vois faire la grosse ligue », un texte de Catherine Harvey-Pinard paru le 17 janvier 2025 dans la presse. Ça reste un enfant. Jérémy Goyer se distingue par bien plus que sa taille. Ses entraîneurs nous vantent sa mobilité, une qualité plutôt rare chez les joueurs d'un tel gabarit. « Jérémy bouge bien », dit Moulumba. Le fait qu'il a joué avec des plus petit, nous a permis de le faire jouer autre chose que de juste jouer comme un grand. Il jouait dans d'autres positions. Certains matchs, je lui disais de monter la balle. Il ne voulait pas. Aujourd'hui, il est polyvalent. Une des premières choses que j'ai remarquées quand j'ai commencé à le coacher, c'était même pas comment il lance, combien il est grand. C'était plus ses décisions sur les passes. Parfois, il fait juste de bonnes passes, c'est instinctif. Il comprend comment se placer. Ça, c'est spécial. Jérémy a d'ailleurs beaucoup gagné en confiance au fil des ans. Il réalise qu'il peut dominer. C'est ça qui est épeurant, s'exclame Emmanuel Bourneau, alors que le principal intéressé affiche un timide sourire en coin. En 2023, Jérémy a commencé à prendre part à des tournois à Toronto, se faisant découvrir davantage à l'échelle canadienne. Depuis, Moulumba et Borneau s'assurent de protéger l'adolescent tout en continuant à le développer adéquatement. Et tous les jours, ils répondent à des courriels de grands noms du basketball. « Regarde, je viens de recevoir un courriel d'une école de Toronto », laisse justement tomber Geneviève Brosseau en déposant son téléphone. « Il a juste 14 ans. Ça reste un enfant », rappelle Moulumba. « Il faut le protéger par rapport à toute cette attention. » En pleine santé. Bien sûr, la vie à 7 pieds 3 pouces n'est pas toujours évidente. Daniel Moulumba se souvient d'une époque où, devant les regards qu'il recevait, Jérémy vivait toutes sortes d'émotions. On s'est dit « OK, il faut trouver un moyen de le protéger parce que ça devenait trop », raconte-t-il. Aujourd'hui, Jérémy vit bien avec sa réalité. Quand il entre dans une place qu'il ne connaît pas, il marche la tête haute et il regarde droit devant lui, soutient Geneviève Brosseau. La maman précise d'ailleurs que son fils est en pleine santé, lui qui a été suivi en endocrinologie. Tout concorde avec son âge de 14 ans, sauf sa grandeur. Même intérieurement. On lui a fait des échographies pour voir si son foie, son cœur, ses poumons grandissent en même temps. Ça aurait peut-être été un problème. Mais non. Il a le même cœur que le petit garçon qui mesure 4 pieds 11 pouces. Quand il court, il pompe beaucoup plus, mais il a les mêmes organes que tout garçon de 14 ans. Pour la suite des choses, Jérémy caresse de grandes ambitions, lui qui est un grand admirateur de Giannis Antetokounmpo et de Victor Wembanyama. Je me vois faire la grosse ligue, tout faire au Canada et finir aux États-Unis, peut-être en NCAA, dit-il. J'aimerais aller dans le prep school à Orangeville parce que c'est une des meilleures écoles au Canada sur le plan basket. Après, en NCAA, peut-être Duke. Je ne vais jamais lui dire que c'est sûr à 100% que tu vas le faire. Mais si tu y crois et que tu y mets le travail, il a une belle éthique de travail, explique Moulumba. Jérémy, c'est un jeune qui, dans les trois dernières années où je l'ai coaché, n'a jamais manqué une pratique. Même quand il est malade ou blessé, il se présente. Geneviève Brosseau, elle, n'a qu'un désir pour son fils. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il soit bien et heureux. Souhaitons-lui donc cela. C'était « Je me vois faire la grosse ligue », un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 17 janvier 2025 dans La Presse.